Il est 7 heures en Avallon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici et ailleurs. D'abord, avant de commencer, quelques informations. Nous aurons demain soir le plaisir d'écouter le docteur Philippe Cornu, professeur à l'Université de Louvain et président de l'Université bouddhiste européenne. Il nous entretiendra, il nous fera une présentation d'un ouvrage très célèbre de Vasubandhu qui est La Trentaine. Il nous en parlera demain. Donc si vous avez encore l'occasion de converger vers Avallon, dépêchez-vous, c'est le moment, le début est demain matin à 10 heures. Et Philippe, bonjour, c'est un grand plaisir de vous revoir et merci d'être parmi nous. Ce soir, la dimension universelle de l'éthique et de la spiritualité, ou bien l'éthique et la spiritualité universelle. Est-ce que quelque chose qui se nommerait l'éthique et la spiritualité universelle existe? Y a-t-il une dimension universelle commune à toute spiritualité et à toute éthique? Notre propos est de dire oui, il est une dimension universelle de l'éthique et de la spiritualité, et qui plus est, elle est le cœur de toutes les traditions saines, authentiques et même complètes. Alors, la dimension universelle de l'éthique et de la spiritualité. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui ferait que l'éthique et ou la spiritualité auraient une dimension universelle? Dit autrement, qu'est-ce qui est universel? Est universel ce qui est naturel? Ce qui est naturel, fondamentalement naturel, est avant la culture. Il est maintes cultures qui se sont développées dans maintes matrices sociolinguistiques, mais il est une unité foncière, première, dans l'expérience et dans la nature humaine fondamentale. Et c'est là aussi la perspective d'unité dans la diversité que l'on dit rimet. Il y a une unité d'expérience foncière et une diversité d'expression, de présentation dans des langues, dans des systèmes philosophiques, dans des perspectives. Une diversité d'expression, diversité de présentation, une diversité de moyens de réalisation, mais convergeant vers une unité d'expérience fondamentale. C'est le symbole traditionnel de la roue du Dharma, dans laquelle il y a différents rayons qui sont autant de voies et de chemins qui tous convergent vers le moyeu vide de la roue. Et le vide du moyeu qui permet sa rotation et cette dimension fondamentale qui est au-delà des noms et des formes et des concepts quels qu'ils soient. Donc ce dont il s'agit n'est pas une religion. Sans entrer dans les détails, généralement et dans le contexte monothéiste, fondé sur une croyance. On pourrait utiliser différents termes, et on en pourrait discuter comme yoga. On peut aussi, et c'est très simple, utiliser le terme de philosophie. cette dimension universelle de l'éthique et de la philosophie, pardon, de l'éthique et de la spiritualité, est une philosophie opérative. Non pas une philosophie au sens moderne, spéculative, mais, alors, philosophie, amour de la sagesse, on peut tourner le mot différemment, mais retenons amour et sagesse. Et qu'est-ce qui constitue le cœur de l'éthique et de la spiritualité dans leur universalité? C'est l'amour et la sagesse. L'amour, que l'on peut aussi dire compassion, qui est une qualité d'empathie, de participation, de communion, d'empathie. Nous sommes tous les mêmes, nous avons la même motivation. Kundun, le Dalai Lama, l'exprime souvent. Et quand je parle de moi, c'est de toi dont je parle, insensé qui croit que je suis autre que toi. Victor Hugo. Il y a ce fond commun qui nous anime. Donc, dans la spiritualité, le fond est dans la sagesse comprise comme l'intelligence de ce qui est. Sache ce que tu es, connais-toi toi-même, Socrate, réalise la nature de ton esprit, le Bouddha, de comprendre ce que l'on est véritablement. Et il est deux moyens de connaissance valide, deux approches cognitives authentiques et valides, qui sont la raison, la logique avec la déduction, l'inférence, et l'immédiateté, ce que l'on nomme aussi l'expérience yogique immédiate, c'est-à-dire l'expérience immédiate aconceptuelle dans une participation non duelle entre observateur et observé. Et l'immédiateté est le cœur de toutes les voies de non-dualité. Toutes les voies de non-dualité sont des voies de découverte et de pratique de l'immédiateté. Donc, c'est là le fond de la spiritualité dans ce qu'elle a d'universel. Pour ce qui est maintenant de l'éthique, alors, qu'est-ce qui est universel ou qu'est-ce qui serait universel comme un principe éthique? Nous parlions tout à l'heure de l'égalité du moi et de l'autre. Je suis comme toi, tu es comme moi. Et si l'autre est un autre moi-même, je respecterai l'autre comme je me respecte. Et je ne ferai pas à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'il me soit fait. Donc, respecter l'autre comme soi-même, aimer l'autre comme soi-même, avoir pour l'autre la compassion, la bonté que l'on a pour soi-même, et ce principe de non-violence, d'amour, de compassion universelle, qui se nomme communément la règle d'or. La règle d'or étant « ne fais pas à l'autre la violence dont tu ne voudrais être victime ». C'est le fond de l'éthique universelle et toutes les règles éthiques de discipline, quelles qu'elles soient, sont susceptibles d'être comprises comme procédant de cette règle d'or. Très important. Donc nous avons sagesse, intelligence et amour, compassion, l'amour, compassion, non-violence, gouvernant l'éthique dans la règle d'or. Et On peut, et c'est important, voir aussi ce que l'on nomme l'expérience profonde. L'expérience profonde va être animatrice et conductrice aussi bien de la pratique éthique que de la pratique spirituelle. Et qu'est-ce que l'expérience profonde universelle, c'est-à-dire non conceptuelle ou non culturelle? Cette dimension universelle de l'expérience profonde se trouve dans ce que l'on nomme en anglais mindfulness, en français pleine conscience, pleine présence. La pleine présence est un état de présence, attentif, ouvert, relaxé et empathique. Tout cela marche en même temps. Ce sont autant de facettes du même état. Et l'empathie se vit dans l'éthique. L'ouverture, qui est une qualité de désaisie et de présence au-delà des saisies mentales habituelles, est au cœur de la spiritualité. Présence, présence ouverte. Donc ainsi, nous avons une dimension universelle de l'éthique et de la spiritualité dans la sagesse, l'intelligence, avec les deux moyens de connaissance valides que nous avons énoncés, dans l'éthique avec la règle d'or, dans l'expérience profonde, la pleine présence, et aussi dans la compréhension de la réalité au niveau relatif, relationnel, dans l'intelligence de l'interdépendance et au niveau absolu, dans l'immédiateté inconceptuelle. Donc voilà brossé de façon simple et concise ce qui peut constituer un plan de réflexion sur ce thème. Il est bien que je sois concis, je vais donc m'arrêter ici pour ouvrir la discussion aussi bien ici qu'ailleurs à vous tous. Un petit moment pour commencer de pleine présence ouverte et relaxée. Eh bien, vous avez la parole si vous le souhaitez. Les observations, les remarques, les questions sont utiles, sont importantes. C'est maintenant un moment de considération, d'analyse, de réflexion et même éventuellement de débat. S'il vous plaît.
Bonsoir Rinpoche. Quand vous parliez de l'éthique universelle et de la règle d'or, donc ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ça m'évoque en fait le fait de ne pas faire souffrir les autres parce qu'on n'a pas envie de souffrir soi-même, le rejet de la souffrance ou la quête de bonheur étant finalement quelque chose de fondamental chez chacun. Par contre, il m'est venu à l'esprit que finalement, nous nous faisons tous souffrir nous-mêmes. Donc ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on me fasse. Ça peut devenir quelque chose d'un peu particulier, finalement, même en fonction des cultures ou de schémas mentaux. Et certaines personnes se font souffrir toute leur vie, inconsciemment, on va dire. Et dans ces cas-là, l'éthique universelle est difficile à appliquer chez ces personnes. C'était une réflexion.
C'est une très bonne réflexion, je pense. Et il s'agit de considérer l'altérité. Quand on dit l'autre, c'est l'altérité. Et il y a au moins trois altérités. Il y a l'altérité en soi, il y a l'altérité commune les autres, et il y a l'altérité, disons, environnementale. Donc, il s'agit de considérer ces trois autres et de respecter ces trois autres. Déjà, comme dit la maxime de l'entraînement du cœur-esprit, la séquence commence avec soi. Donc, d'avoir une attitude d'empathie non violente eu égard à soi, d'entrer en amitié avec soi-même, de ne pas se faire violence. Alors attention, ne pas se faire violence, c'est une expression populaire qui peut être comprise différemment, mais de ne pas avoir d'attitude auto-agressive et d'avoir savoir s'apprécier, apprécier la liberté, apprécier les qualités qui sont nôtres, avoir par rapport à soi-même une douceur, une amitié et une pratique éthique et disciplinée qui est celle d'un respect de soi-même et d'une confiance en soi. Donc ça, c'est un aspect très important. Il y a l'altérité habituelle alors, avec tous les autres, nos semblables, nos prochains, nos frères et sœurs, et qui qu'ils soient, pas seulement nos frères et sœurs de notre famille, au sens de notre clan, de notre religion, mais dans une perspective universelle, c'est-à-dire tous les humains. Tous les humains. C'est très important. Et que l'on soit que l'on cultive aussi dans une perspective de responsabilité universelle, le respect de tous les humains. J'irais jusqu'à dire dans une démocratie globale. Donc, cette dimension générale. Et la troisième forme d'altérité est l'environnement. Habitat, habitant sont interdépendants. Habitat, habitant forment un couple, comme l'écosystème et son habitant, un couple interdépendant. Et nuire à son habitat est comme nuire à l'habitant. Donc, il y a là aussi une éthique et un principe de non-violence et d'empathie environnementale qui est une forme d'écologie profonde, de respect de la nature et de respect de la vie. Derine, vous êtes la gardienne de la parole pour la faire circuler si besoin est.
Sur Internet, toujours pas de questions. J'aurais une question personnellement par rapport aux religions monothéistes et par rapport à aux voies de non-duel. Aux voies de la non-dualité.
Oui.
Est-ce que les religions monothéistes sont par définition duelles? Est-ce que, au sens absolu, elles vont se diriger vers une non-dualité?
Alors, c'est une question qui peut vite être un petit peu polémique, mais qui est intéressante. Mais certainement que les religions monothéistes ne sont pas duelles par définition. Maintenant qu'elles soient dualistes dans leur mode opératoire, ça me semble une évidence. Quoi qu'il y ait des distinctions à faire entre les approches théologiques et les approches mystiques. La théologie, et la théologie au sens monothéiste, est finalement toujours dualiste, même si elle peut avoir une théologie très articulée dans une vision trinitaire très subtile et articulée, je le répète, mais elle reste dualiste, car elle reste conceptuelle. Ce qui est conceptuel est finalement toujours duel, relatif. Le conceptuel est relatif, le non-conceptuel, c'est-à-dire l'immédiateté, tel que nous en parlions tout à l'heure, est immédiat, c'est-à-dire non-duel, dans une présence instantanée, et l'entrée dans la dimension non-dualiste, une voie non-dualiste ne peut être foncièrement que non-conceptuelle. C'est-à-dire qu'une voie qui est complète au sens où elle amène à la transcendance de ses propres formulations, de ses propres théories, de sa propre théologie, de ses propres credos, ou même de sa métaphysique, ou de toutes ses formulations. Une voie complète est celle qui est capable, qui est autodissolvante, dont les formulations qui servent nécessairement au début comme tremplin sont susceptibles d'être déconstruites et dissoutes. Et une tradition qui est fondée sur un credo, c'est-à-dire sur une croyance dans laquelle la vérité ou la réalité est dite a priori comme un énoncé infaillible, est une façon de, une sorte de clôture irrémédiable dans la conception et dans la dualité. Alors, il est des mystiques dans les religions monothéistes qui ont eu l'intuition de la non-dualité et d'une communion absolue avec Dieu. Mais ce sont des personnes qui ont aussi eu des problèmes généralement. Le docteur de l'Église le plus universel que je connaisse, Maître Eckhart, a lui-même eu quelques difficultés. Chez les musulmans, il est des soufis qui ont des intuitions et des perspectives, je dirais véritablement non dualistes, mais ils ont aussi eu des problèmes. Et ils ont eu des problèmes partout. Donc, ce qui est important, peut-être dans une formule, c'est les concepts divisent, l'expérience rassemble. L'expérience, j'entends l'expérience fondamentale. L'expérience naturelle, l'expérience non conceptuelle. Il est pertinent de faire la distinction entre nature et culture. Donc, l'expérience naturelle, fondamentale, est universelle. Et elle rassemble. Elle rassemble parce qu'elle est notre fond, qui que nous soyons. Par contre, les concepts sont multiples, pluriels, divers, et ils amènent des divisions. Et si on absolutise un concept, il y a un gros problème. Si l'on... alors, dans un raccourci, donner deux noms différents à Dieu, à supposer que Dieu soit l'absolu, ce qui n'est pas toujours évident, mais dans un raccourci, supposons que Dieu soit l'absolu, donnez-lui deux noms différents et ça crée des différences qui sont susceptibles de provoquer des guerres de religion. Maintenant, dans cette direction et par rapport à ce sujet, il est un point très important qui est l'absolu. Alors, si l'on discute avec les religions monothéistes, supposons que Dieu soit absolu. Je dis bien que tous les théologiens, finalement, ne suivraient pas. Mais les musulmans, oui, les soufis en particulier. Peu importe, là. L'absolu, qu'est-ce que l'absolu ? L'absolu est ce qui est sans autre, ce qui ne dépend pas de quelque chose qui lui est autre. C'est ce qui fait l'absoluité. Et cette absence d'altérité qui caractérise l'absolu fait que ce qui est absolu est omniprésent. Donc, il y a une synonymie ou une coextensivité, si l'on pouvait dire, entre l'absolu et l'omniprésent. Parce que si l'absolu n'était pas omniprésent, c'est-à-dire présent partout, il y aurait quelque chose quelque part qui serait autre que lui, et ce ne serait plus l'absolu. Donc l'absolu est omniprésent. Alors, supposons que Dieu soit omniprésent. En tout cas, dans la tradition du Bouddha, pour nous, la déité... Et là, j'emploie l'expression qu'a utilisée Maître Eckhart, la déité étant justement le Dieu absolu au-delà du Dieu personnel et subtilement duel. La déité est omniprésente. La nature de la déité, ce que l'on nomme le corps absolu, embrasse, pénètre toute chose. Il est infus, diffus, omniprésent. Donc, la déité est omniprésente. La question suivante, qui est intéressante, qu'en est-il de la nature ? Ce que l'on nomme nature, la nature de l'esprit, notre nature. Alors, si on prend nature dans son sens fort, la nature, la nature est partout. La nature est omniprésente. Et si la nature est omniprésente et que Dieu est omniprésent, nous avons un excellent syllogisme qui pose l'équivalence de Dieu et de la nature. Deus sive natura, ce que disait Spinoza, qui est une perspective aussi tout à fait fondamentale, je dirais, de la dimension universelle de la spiritualité, si l'on entre dans ce genre de discussion.
Merci. Une question de Dorje Jigme. Dans la chrétienté, il est souvent énoncé cette maxime « Qui veut faire l'ange, fait la bête ». Comment pouvons-nous dépasser nos problématiques inconscientes et ne pas reproduire cette maxime dans le dharma ?
Ben, supposons que « Qui veut faire l'ange, fait la bête ». Admettons. Déjà, première remarque, pour ne pas faire la bête, il suffit de ne pas faire l'ange. Et effectivement, vouloir jouer à l'ange et prétendre que l'on est un ange, il n'y a que les saints avec un T qui ont des visions démoniaques. Il n'y a que des saints anges pour avoir des visions de bêtes démoniaques, de diables poilus à la queue fourchue, etc. Voilà une petite réponse humoristique. Alors, ce qui est important ici est que l'éthique dont nous parlons n'est pas une éthique juridique. Dans les traditions monothéistes, l'éthique est toujours juridique. Moïse a reçu les 10 commandements de Dieu qui lui a parlé, qui lui a dicté. Et l'éthique, la discipline ou les commandements sont fondés sur des arguments d'autorité. Il y a l'autorité divine, il y a l'autorité aussi dans d'autres contextes non religieux humaines. Mais dans une perspective universelle, l'éthique n'est jamais fondée sur des arguments d'autorité, qu'ils soient divins ou qu'ils soient humains. L'éthique est fondée sur une perspective de santé et de thérapie. Donc, ce qui est bon est sain, ou mieux à l'envers, c'est parce que c'est sain que c'est bon. Et quelque chose de malsain est mauvais. Pourquoi ? Parce que ce qui est sain amène l'harmonie. La santé est un état d'harmonie. Lorsque nous sommes en bonne santé, c'est que les différentes fonctions physiques, corporelles, opèrent de façon équilibrée et harmonieuse. Il est important de voir que harmonie et bonheur, bien-être, santé sont somme toute des synonymes. Et qu'à l'inverse, la disharmonie amène des déséquilibres qui sont des maladies. Et la maladie est un mal-être qui est douleur et souffrance. Donc, ce dont il s'agit dans une perspective naturelle et universelle, c'est d'une perspective de santé. Et l'éthique est une éthique de santé, est une éthique thérapeutique, une éthique de thérapie fondamentale pour accéder même à ce que l'on peut nommer la santé fondamentale. Et on peut ce que l'on fait dans la tradition du Bouddha, qui a une extension universaliste, universelle, envisager la thérapie en trois volets. Alors, il y a trois volets à la thérapie qui sont justement la discipline ou l'éthique, l'expérience profonde et la compréhension véritable. L'éthique, discipline de santé, de non-violence fondée dans l'empathie et la règle d'or, expérience profonde dans la pleine conscience, ou mieux, la pleine présence, et la compréhension de la réalité dans sa complexité et dans son interdépendance, intelligence de l'interdépendance, et au niveau le plus fondamental, expérience d'immédiateté. Je voudrais ne pas parler trop longtemps pour, s'il y a des questions, laisser la parole. S'il vous plaît, Oriane.
Une question personnelle. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a soif de spiritualité et d'éthique. Et on s'aperçoit qu'elle est quasiment bafouée, l'éthique, à tous les niveaux de la société. Et si on prend un exemple comme la science avec la recherche biologique, principalement la médecine, donc, avec le clonage, etc. Il y a des enjeux qui seront quand même là importants. Et est-ce que vous savez un peu quelle est l'implication de cette éthique spirituelle ? Est-ce que il y a une recherche spirituelle de la part de ces personnes qui œuvrent dans ces strates-là, ou est-ce qu'on ne fait que jouer à Dieu, quoi, quelque part ?
La science est une intelligence et une force, mais qui peut être utilisée pour le meilleur ou pour le pire. Et dans la mesure où c'est une force énorme, il est d'autant plus important qu'elle soit éthique. La science et les technosciences peuvent aussi bien produire des armes de destruction massive que des médicaments ou des soins. Alors, si l'on dit qu'il est nécessaire que la science soit éthique, c'est peut-être difficile. La science n'est ni éthique ni non éthique en elle-même, mais que son utilisation soit faite pour le bien, c'est-à-dire dans une empathie de non-violence, c'est-à-dire dans l'intelligence et la pratique de la règle d'or. Alors, au niveau scientifique, il y a des choses remarquables qui sont faites aujourd'hui. Il est intéressant de citer tout ce qui se fait dans le Mind and Life Institute, qui a été initié par Francesco Varela et Kundun, le Dalai Lama, et qui fait des recherches, de la recherche fondamentale dans les sciences de la cognition, les neurosciences, et qui permet de dépasser une science objective en introduisant le sujet à la première personne comme un facteur et un facteur fondamental de l'expérience et de l'expérience humaine. Il serait facile de lancer la célèbre parole de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein, il y a bien des bacheliers qui ont disserté là-dessus. La science sans une conscience éthique, alors ruine de l'âme, bon, blâme, on peut en discuter, mais en tout cas est ruineuse ou désastreuse. Hein. Et qu'est-ce qui ruine la science? C'est l'ego. Il y a quelques années, j'avais fait une conférence à Bangkok, au siège des Nations Unies, pour dire, le thème était Aristote, le Bouddha, même combat. Et tous deux, que ce soit Aristote ou que ce soit le Bouddha, ont dit que ce qui nous ruine, c'est l'avidité. L'avidité. Aristote, dans l'éthique, fait la distinction entre ce qui est économique et ce qui est crématistique. L'économique, ce sont les échanges, tous les échanges, tout ce dont on vit. Crématistique, c'est l'enrichissement pour soi. Money making money. Et le Bouddha a enseigné aussi, et explicitement et précisément, que la soif, l'avidité, sepa en tibétain, tresna en sanskrit, est la source de tous nos malheurs. Donc c'est cette avidité qui aujourd'hui, malheureusement, gouverne le monde dans la société de consommation et dans le grand vampire du capitalisme financier. Et c'est lorsque ce grand vampire avide utilise la science pour faire des profits, qu'elle devient désastreuse. À ce point, je vous invite à...
C'était pas de question, c'était plutôt une
remarque.
Une remarque pour apporter un peu
d'eau. Docteur Cornu, Philippe, s'il te plaît.
Par rapport à tout à l'heure et à la notion de la dualité dans les religions monothéistes, je pense notamment au christianisme, que je connais un petit peu mieux quand même que l'islam ou le judaïsme. Je pense que si on essaye de comprendre cette dualité du point de vue bouddhiste, on aura du mal à la comprendre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand même, ce Dieu qui crée le monde manifesté et qui crée en fait les êtres, leur donne une autonomie. Et cette autonomie, elle est voulue par Dieu. C'est-à-dire que donc il y a une autonomisation des créatures. Et c'est voulu par son amour. Hein, je parle du point de vue de la théologie chrétienne. Donc en quelque sorte, cette dualité, elle est nécessaire en quelque sorte comme une sorte de tension pour que la créature puisse elle-même en quelque sorte faire le choix de se tourner également vers son créateur et de retrouver ce lien d'amour qui la lie à son créateur. Et donc en fait, la dualité, elle a un rôle dans le christianisme, c'est de susciter justement cette circulation de l'amour entre le créateur et la créature. C'est ça le sens de la dualité du point de vue chrétien. Donc on voit bien qu'on est complètement dans une autre optique que la façon dont on voit les choses en bouddhisme, où on va chercher non pas une source qui est un dieu créateur et qui est transcendant et extérieur à la créature, qui est différent, mais on va chercher une source que nous avons ignorée, mais qui est en nous et qui est notre véritable sagesse, qui est notre nature de sagesse et que nous cherchons à retrouver, qui est la nature de Bouddha. Et donc, évidemment, nous, on va se diriger plutôt vers une non-dualité qui va nous faire découvrir la source de l'amour, mais en nous. Mais, si vous voulez, c'est une autre manière, c'est une autre façon, et je pense que c'est une histoire de moyens qui sont différents, tout simplement. Alors, peut-être que c'est plus risqué, la dualité, mais je pense qu'il faut aussi, reconnaître cet aspect-là de la dualité dans le christianisme, pour mieux comprendre ce qu'elle veut dire.
Tout à fait. Tout à fait, c'est très important. Merci de cette bonne remarque. Et on voit que le docteur Cornu est devenu professeur à l'université catholique.
Et dans la faculté de théologie.
Et dans la faculté de théologie. Et donc, il a tout à fait raison. Même si la raison n'a jamais toujours que raison. Une remarque néanmoins, c'est que la tension qu'il a fort bien exprimer duel entre Dieu et la créature dans les monothéismes, pour faire simple, ou dans le christianisme et le catholicisme en particulier. Très bien, c'est vrai, mais la même tension existe, je dirais, alors, puisque on fait une comparaison avec le dharma, la même tension existe dans le dharma au niveau relatif. C'est exactement la même chose. Mais la différence, c'est que dans le monothéisme, on ne dépasse pas le relatif. Et lorsque nous pratiquons le sadhana de Chenrezig, dans la première phase relative, il y a la même tension, mais dans la deuxième phase, dite de perfection, il y a un effacement des signes, des noms et des formes, et de l'altérité, qui reste toujours relative. Alors, après, je sais que c'est le genre de sujet sur lequel on peut polémiquer ou discuter pendant très très longtemps. Pendant quelques années, nous avions eu un séminaire qui était sur Trinité et Trikaya, avec d'éminents théologiens catholiques et des pratiquants et bouddhistes aussi éminents. Alors, dans une perspective rimaire, et peut-être il faudra que l'on conclue, l'expérience rassemble, les concepts divisent. L'expérience fondamentale, naturelle est une. Les concepts sont multiples, divers et variés. Et une petite histoire que l'on raconte souvent et que j'aime beaucoup. Lorsque deux théologiens se rencontrent, s'ils sont d'accord, c'est que l'un d'eux n'est pas théologien. Si deux sages se rencontrent, s'ils ne sont pas d'accord, alors on entend par sage un homme justement d'expérience, au-delà des concepts et des saisies conceptuelles. S'ils ne sont pas en accord, eh bien c'est qu'ils ne sont pas sages. Ou que l'un des deux n'est pas sage. Voilà. C'est que l'expérience naturelle rassemble, c'est le lieu de l'unité, les concepts divisent et au mieux sont une pluralité qui tend vers l'unité qui échappe à tous les concepts, noms et formes. Et c'est la perspective d'unité dans la diversité qui en tibétain se nomme rimé. Un petit moment de pleine présence, si vous voulez, pour conclure. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, que tout soit propice et rendez-vous demain avec le docteur Philippe Cornu, qui nous parlera de la trentaine, ce célèbre texte de Vasubandhu, très important, et je vous invite à être nombreux pour l'écouter. Vous y trouverez certainement une inspiration. Bonne soirée.